France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Si tout se passe mal du point de vue des agriculteurs, lundi nous aurons une photo d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, tout sourire avec le président paraguayen et devant eux donc la signature du Mercosur après 25 ans de négociations. Je dis si tout se passe mal du point de vue des agriculteurs parce que leur opposition, vous l'entendez depuis très longtemps, le Mercosur a été maintes fois discuté et repoussé. Cette fois la France doit se sentir un peu seule, l'Italie qui préservait une minorité de blocage se dit satisfaite ce soir de la décision de la Commission européenne de débloquer par anticipation des fonds pour la PAC, la politique agricole commune. Vous l'avez le sous-texte, l'Europe essaye d'apaiser les divisions, la PAC et le Mercosur dans le même panier, si j'ose dire. Je te donne un peu du fond de la PAC, tu me donnes une signature pour le Mercosur. On verra si les choses s'alignent de cette manière-là. Demain, jour important donc à Bruxelles, réunion de tous les ministres de l'agriculture, et donc accord vendredi, signature lundi. On verra parce que la pression des agriculteurs et des éleveurs surtout en France, ne faiblit pas. Les convois, vous les voyez peut-être sur vos chemins. Réunion donc hier et ce soir à Matignon, qui est toujours en cours. Est-ce que c'est fini? On va encore parler de réciprocité à Bruxelles, de contrôle des produits importés, de teneur en pesticides autorisés. On verra si ça a du sens de poser ces questions-là, mais ce sera aussi le fond de notre discussion. Est-ce qu'on a abdiqué? Est-ce qu'on avait un autre choix? Ou est-ce que c'est aussi une bouteille à moitié pleine dont on ne parle pas, ou en tout cas beaucoup moins, et que la balance est à peu près équitable dans ce Mercosur. L'autre question qui se pose, et que se posent les 27, et nous aussi avons-nous le choix, c'est celle d'un contexte européen. Est-ce que face aux États-Unis en ce moment, nous avons les moyens de nous montrer divisés? C'est le téléphone sonne, les amis, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Patrice, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir tout le monde.
Eh bien, on vous écoute.
Ben voilà, je voulais savoir quel est l'intérêt pour l'économie en général et le consommateur en particulier, d'importer des denrées agricoles que la France est capable de produire sur ses terres. Je suis inquiet par le Mercosur et je voudrais faire une remarque en tant que citoyen consommateur qui me semble importante. J'habite dans un village de la Meuse où j'ai bien conscience de la difficulté et du courage surtout d'être agriculteur, surtout lorsqu'il élève des bêtes au parc, non pas gestionnaire d'une sinistre stabulation de centaines d'animaux qui ne voient jamais le jour. Je ne suis pas agriculteur, je serais prêt à descendre dans la rue contre le Mercosur, sauf qu'on entend quand même des discours inadmissibles, pour ne pas dire totalitaires, de certains dirigeants qui méprisent totalement la défense de l'environnement, notamment qui méprisent l'OFB par exemple, et qui oublient que les écologistes sont les sentinelles sans but lucratif au service de tous, même de la santé des agriculteurs. Donc ce n'est pas en niant les dégâts environnementaux que ça va rapprocher les agriculteurs. On a besoin d'eux, les Français, les écologistes ont besoin des agriculteurs, les agriculteurs ont besoin des citoyens et des écologistes.
Merci pour ces remarques et cette entrée en matière, Patrice, qui dit au fond à quel point on peut avoir des points de vue qui peuvent être ambigus aussi sur ces questions-là, et que heureusement, et c'est bien le principe, rien n'est simple, c'est pas toujours tout facile ou tout difficile. Bonsoir Thierry Pouche.
Bonsoir.
Vous êtes le premier invité de ce téléphone, vous êtes économiste, membre de la Chambre d'agriculture de France. On a Fabien Cazot qui est là également. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Notre correspondant à Bruxelles, c'est vous. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé d'abord avec les Italiens aujourd'hui, puisqu'il va sans doute se passer demain. On attend Johan Barbe, qui est éleveur, qui est président de la Fédération nationale des producteurs de lait et qui est aussi porte-parole de la FNSEA. Retenu, vous l'imaginez, à Matignon. Il pensait lui aussi d'ailleurs qu'il sortirait à temps. On espère qu'il aura au moins au téléphone avant la fin de cette journée, de cette émission. Thierry Pouche, sur le début de la question de Patrice, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des produits ailleurs quand nous sommes au fond en France autosuffisants? Le sommes-nous? Pourquoi le faisons-nous?
Alors, il faut rappeler que dans ce type de négociation et ce type d'accord, ce sont des négociations globales, c'est-à-dire qui concernent l'ensemble des secteurs d'activité économique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point...
Ça veut dire l'industrie, les voitures,
l'industrie,
etc.
L'industrie, y compris un certain nombre de services, etc. Donc,
ça n'est pas un accord agricole, c'est ça qu'il faut répéter.
Ce n'est pas un accord agricole. Et c'est bien là qu'est sans doute le problème.
Ouais, ouais.
Parce qu'on pourrait considérer que dans une négociation, à partir du moment où il y a des différences de coûts de production, des différences de normes, des différences environnementales, on pourrait considérer que et même sur des filières qui sont menacées aujourd'hui dans l'Union européenne et singulièrement en France, on pourrait considérer que on met de côté l'agriculture et on négocie que sur le reste. C'est pas le cas. Les négociateurs en général, surtout ceux avec lesquels l'Europe négocie, entendent traiter globalement. Et ça, c'est assez classique puisque depuis les derniers accords du GATT en vigueur, c'est-à-dire ceux de Marrakech en 1994, on avait inclus l'agriculture, alors que depuis la naissance du GATT en 1947, l'agriculture bénéficiait d'un régime d'exception. Donc là, on négocie. Donc, lorsque nos négociateurs vont négocier avec un certain nombre de pays, ces pays-là, ils insistent pour dire, nous, on a des intérêts à faire valoir, des intérêts offensifs, et en particulier des intérêts agricoles, dans le cas du Mercosur. Alors là, il n'y a pas mieux, hein, parce que c'est quand même de grandes puissances agricoles.
Mais est-ce qu'on peut dire, parce que vous avez raison, il y a des grandes puissances agricoles qui sont en jeu, est-ce qu'on peut dire que l'agriculture, qu'on parle de nous, ou de certains de nos voisins européens d'ailleurs, que l'agriculture a été, au fond, la sacrifiée du Mercosur? Est-ce qu'on peut le dire aussi brutalement que ça? Est-ce que c'est quand même un poil plus complexe?
Alors, c'est un petit peu plus complexe. Il faut regarder filière par filière. Je voudrais juste rappeler aussi, dans le cadre des négociations globales, que les États membres donnent mandat à la Commission pour négocier à leur place. C'est-à-dire que la politique commerciale est vraiment du seul ressort de la Commission européenne. Donc après, il peut y avoir des tractations, des négociations, mais c'est elle qui négocie. Et elle a effectivement à tenir compte de l'ensemble des intérêts industriels. On a beaucoup parlé de l'Allemagne et de son industrie.
Bien sûr.
Et donc, elle doit aussi tenir compte de la France, mais sauf que là, l'agriculture, pour répondre à votre question.
Alors, je vais la reformuler d'ailleurs. Est-ce que les vins, les spiritueux, les produits laitiers, les appellations protégées compensent les importations de bovins, par exemple, ou de poulets?
Alors, c'est assez systématique dans des négociations commerciales bilatérales, puisque c'est le cas, que les contingents agricoles qu'on accorde à nos futurs partenaires commerciaux, avec des droits de douane qui sont réduits ou qui sont carrément démantelés, pour certains c'est le cas avec le Mercosur, ces contingents sont systématiquement supérieurs à ceux que nous obtenons, et en particulier dans le Mercosur, sur les produits laitiers, fromage, poudre de lait et lait infantile, et les produits viticoles, et la reconnaissance de 350 indications géographiques, dont 44 pour la France. Donc ça ne compense pas véritablement en termes de masse, en quelque sorte. Sur les produits laitiers, c'est à peu près 15 000 tonnes. C'est 99 000 tonnes pour la viande bovine. Donc on est vraiment sur des situations déséquilibrées.
Et en même temps, 99 000 tonnes pour la viande bovine, par rapport à ce qu'on produit nous en termes de bovins en Europe, on a l'impression que c'est presque une goutte d'eau, en fait.
Voilà, alors
c'est
ça, c'est l'argument, c'est l'argument de la Commission européenne. Ça ne représente pas grand-chose de la production intérieure et de la consommation intérieure. Mais il faut regarder sur la viande bovine, et c'est extrêmement important, que ce qui va être exporté par les pays du Mercosur, et en particulier par le Brésil et l'Argentine, ce sont les morceaux de très haute valeur ajoutée, en particulier les aloyaux, c'est-à-dire les filets, les faux filets, etc.
C'est important que vous le précisiez, parce qu'on a un peu le sentiment qu'on va nous refiler le n'importe quoi. Pas du tout.
Non, pas du tout.
C'est exactement l'inverse, en fait. On donne les bons morceaux,
voilà,
en effet. Ouais.
On va importer des produits de très haute qualité, qui font finalement l'essentiel de la valeur économique de l'animal. Et comme, en général, en Europe et en France en particulier, la restauration hors domicile est particulièrement intéressée par des coûts relativement plus inférieurs que ce qu'on pourrait obtenir nous, eh bien, ils vont acheter ces morceaux d'aloyaux au détriment des éleveurs. Et je voudrais juste ajouter un point, c'est très important. Quand vous avez un animal, que vous l'abattez, il y a donc l'abattoir, ensuite vous le décortiquez pour faire les morceaux, vous extrayez ces morceaux d'aloyaux, c'est toute une chaîne de valeur. Et avec les importations en provenance du Mercosur, cette chaîne de valeur peut être remise en cause.
Voilà, on va bien sûr y venir, on a beaucoup de questions dans ce sens-là. Juste une dernière chose avant qu'on aille au standard et qu'on rejoigne Fabien aussi qui est à Bruxelles. Au milieu de tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde. Est-ce que ça veut dire que ça aussi, ça ne fonctionne pas? Une clause de sauvegarde, c'est simplement de dire, alors attention, si on dépasse les exportations de temps, à ce moment-là, effectivement, on les bloque ou on a ce qu'on appelle une clause de sauvegarde. C'est pareil sur les prix importés, s'ils baissaient de plus de 5%, et tout ça a été vraiment renégocié, en fait.
C'est pipeau,
cette renégociation des clauses de sauvegarde, ou pas?
Peut-être pas complètement pipeau, mais ça ne sera pas suffisant pour arrêter le flux d'importation. La discussion a eu lieu, et c'est à l'initiative de la France, hein, qui a quand même réclamé cette clause de sauvegarde,
oui.
C'était fixé à 10%. C'est-à-dire que si on dépassait hors contingent ces importations de 10% et que ça occasionnait une diminution des prix de 10%, on pouvait suspendre les importations.
Oui.
Le Parlement européen a réclamé 5%, donc c'est déjà beaucoup plus drastique. La Commission, dans un premier temps, avait répondu sur 8%. Et finalement, là, dans le débat actuel et au regard des tensions entre le monde agricole et la Commission européenne, elle s'orienterait vers le Parlement européen et elle accepterait les 5%. Ça fait partie des tractations que vous avez évoquées au début.
Juste un mot, Fabien Cazot, avant qu'on aille retrouver Jean-Christophe, notre auditeur qui nous attend. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez un peu ce qui s'est tramé, ce qui s'est raconté aujourd'hui à Bruxelles. Est-ce que on est sûr désormais à Bruxelles que demain on se met d'accord, vendredi on signe, lundi Ursula von der Leyen est au Paraguay et que c'est fini en fait, l'affaire est close?
Alors j'ai envie de vous répondre qu'il existe toujours une marge d'incertitude dans ces affaires commerciales et singulièrement sur la position de pays comme l'Italie, comme la France aussi d'ailleurs, qui a soufflé le chaud et le froid à plusieurs reprises ces derniers mois.
Il faut rappeler, pardon de vous interrompre Fabien, aux gens qui nous écoutent, que l'Italie, on n'a pas très bien compris à ce moment-là pourquoi d'ailleurs, mais s'est rallié à nous en disant attendez, non, le compte n'y est pas, et puis là elle est en train de sortir en fait, parce qu'on lui a promis autre chose et on y viendra.
Oui, elle a tergiversé pendant longtemps l'Italie parce que Giorgia Meloni est tiraillée en réalité entre d'une part ses agriculteurs comme en France qui sont très sceptiques sur l'accord avec le Mercosur et d'autre part ses industriels notamment de l'Italie du Nord qui sont eux très exportateurs, qui sont porté notamment par la Ligue du Nord pour ce qui est de l'extrême droite en coalition avec Giorgia Meloni au pouvoir aujourd'hui en Italie. Donc, ils ont fait aussi entendre leur voix en faveur de l'accord du Mercosur. Et Giorgia Meloni, elle a dû incarner une sorte de synthèse, sans doute pas très commode pour elle. Elle a fini par donner un nom provisoire le mois dernier en indiquant au président brésilien Lula que à ce stade, l'Italie ne signerait pas, mais que ce serait partie remise en janvier. Nous sommes en janvier, donc voilà maintenant qu'avec un certain nombre de souplesses introduites, évoquées par la Commission européenne, elle estimerait désormais pouvoir donner la voie italienne à la signature de l'accord.
Ce qui s'est passé, Fabien, moi si j'ai bien compris, c'est qu'on a mis effectivement PAC et Mercosur dans le même paquet, enfin bref, on fait une espèce de cote mal taillée, et là on a dit au pays, et notamment à Giorgia Meloni, on a dit, vous savez quoi, on va pouvoir dégager 45 milliards d'euros supplémentaires sur la politique agricole commune, et elle dit ok, banco, je prends. Ça s'appelle du marchandage, enfin c'est comme ça que ça marche.
C'est ça, et c'est pour Meloni et pour les Européens dans leur ensemble. D'ailleurs, ça va être
et
un accord
nous y compris,
global.
Par ailleurs.
Absolument, oui, sur ce qu'on évoquait là, sur l'activation des clauses de sauvegarde chères à la France, sur aussi cet arrêté annoncé par le Premier ministre ce week-end sur l'interdiction des résidus de substances interdites en Europe, donc des produits importés du Mercosur, sur un assouplissement aussi de ce qu'on appelle la taxe carbone européenne aux frontières pour ne pas renchérir les importations d'engrais. Ça aussi, c'est un sujet sensible.
Oui, taxe carbone, taxe engrais. En gros, c'est la même que la taxe carbone pour les engrais. Est-ce que je vais un peu trop vite?
C'est ça. C'est en fait un mécanisme qui prévoit d'alourdir le prix des importations dès lors qu'elles sont trop carbonées. Et les engrais le sont, carbonés, bien souvent. Et puis, donc, ce déblocage effectivement anticipé de fonds de la PAC salué par l'Italie, ce qui augure sans doute demain d'une position italienne plutôt conciliante à l'égard de l'accord avec le Mercosur.
Je vous lâche pas Fabien, mais je veux qu'on retourne au standard, retrouver Jean-Christophe qui nous attend. Bonsoir Jean-Christophe.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Merci. Alors écoutez, moi je vous appelle avec une double casquette. Je suis à la fois enseignant-chercheur et membre d'un think tank qui s'appelle La Fabrique de l'Exportation et aussi très proche du milieu agricole que je connais bien, dont je suis issu et que je côtoie tous les week-ends.
Ok.
Et en fait, je crois qu'il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Ce Mercosur, on parle de libre-échange, c'est en fait d'abord un accord d'échange régulé, comme la plupart des accords commerciaux par lesquels les produits que nous consommons et qui remplissent nos armoires et nos garages arrivent chez nous. C'est pas un accord de libre-échange. La preuve, vous avez parlé jusqu'à présent de quotas, de contingents, etc. Première chose. Deuxièmement, on est dans un contexte où beaucoup de nos partenaires commerciaux traditionnels, comme les États-Unis ou comme la Chine, sont en train de se d'étendre ou de fermer ou de restreindre leur marché à nos produits. Et on a besoin de rester une puissance productive et exportatrice. Et il ne faut pas oublier que derrière la contestation agricole, qui est légitime, mais qui est surtout due au fait qu'on arrive sur un contexte climatique, premièrement, et de dermatose qui rend le sujet très, très sensible, il y a de nombreuses filières qui attendent cet accord pour exporter et pour servir des clients en Amérique latine, y compris des filières agroalimentaires. Et j'ai envie de dire aux auditeurs, pour conclure, que plutôt que de s'opposer au Mercosur s'ils soutiennent l'agriculture française, mangez du bœuf plutôt que de la protéine végétale, et manger du bœuf français, et accepter qu'on ouvre des fermes d'une certaine taille, voire des usines pour produire en France.
Vous allez recevoir du courrier, vous, Jean-Christophe, je vous
le
promets.
Ah, mais voilà, le consommateur doit être aussi conscient qu'il soit cohérent avec ses engagements. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Je voudrais qu'on rejoigne Manon Pisani, qui est avec nous. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Voilà, on vous entend bien, des jeunes agriculteurs. Moi, j'aimerais bien vous entendre, Manon Pisani, réagir à ce que dit Jean-Christophe à l'instant, c'est-à-dire sur l'autre côté de la médaille. Il y a aussi toute une partie, y compris chez les agriculteurs, de gens qui attendent la signature de cet accord. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens qui, y compris dans votre secteur, encore une fois, attendent la signature de cet accord?
On leur dit qu'on ne peut pas raisonner... Sans le collectif sur la signature de ces accords-là. Enfin, nous, en tout cas, chez Jeunes Agriculteurs, on a pour habitude de défendre l'ensemble des filières, sans laisser personne de côté. Et à aujourd'hui, moi, j'ai quand même l'impression que beaucoup de nos adhérents se sentent, en tout cas, et seront lésés par cet accord du Mercosur. Et ça, pour le coup, c'est plus que regrettable. À l'heure où on espère... en tout cas, nous, chez Jeunes Agriculteurs, on a envie de voir perdurer l'agriculture française dans l'ensemble de ses filières, sur l'ensemble de notre territoire. Ça passe mal dans les campagnes et les agriculteurs ne le vivent pas bien.
Et ça, c'est ce qu'on entend et ce qu'on voit sur les barrages et partout et dans les réunions qui s'éternisent à Matignon. Mais Manon Pisani, est-ce que vous dites que c'est foutu maintenant, c'est mort, en fait? Depuis le retrait de l'Italie, est-ce que c'est fini? Qu'est-ce qui reste, en fait? Quelle est la marge qui reste?
Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste encore quand même quelques espoirs. Un conseil des ministres, des alliés de dernière minute qui pourraient sortir dans la semaine, même si je vous avouerai que tout n'est pas... Enfin, le ciel à l'horizon n'est pas...
J'ai bien compris que vous étiez bien consciente aussi de ce que vous avez devant vous.
Oui. Enfin, je pense qu'il serait quand même naïf de penser le contraire, mais il reste quand même quelques espoirs et on peut pas s'avouer vaincu à l'heure actuelle, alors que rien n'est signé pour Mercosur et que il nous reste une grosse semaine de travail et d'espoir.
Quand on vous dit, et je vous poserai la question aussi à vous, Thierry Pouche, vous avez commencé à y répondre doucement, quand on vous dit mais il y aura une clause miroir, et notamment sur les fameux 5 pesticides, les dernières choses qui ont été signées tout récemment, quand on vous parle effectivement de cette taxe carbone, taxe engrais, sur lequel on fait plus ou moins une croix, quand on vous parle d'un deal général avec la PAC et de 45 milliards, qu'est-ce que vous répondez, Manon Pisani? Est-ce que vous dites trop facile? On nous aura pas comme ça? Est-ce que vous avez le sentiment que toutes les garde-fous qu'on met ne seront pas respectés une fois qu'on y est? Hein, j'ai bien compris que vous pensiez qu'il pouvait y rester une petite porte de sortie, mais une fois qu'on y est, est-ce que vous avez confiance dans les garde-fous ou pas du tout?
À titre très personnel, j'ai moyennement confiance dans les garde-fous qu'on nous promet. Enfin, on voit bien comment se passent les choses à l'heure actuelle, quel espoir pour la suite. Si ce n'est, en fait, on n'en sait pas grand-chose. Moi, j'ai du mal à voir un douanier, un gardien derrière chaque bateau qui pourrait rentrer dans un port français ou européen, et encore moins un douanier ou un gardien derrière chaque producteur sud-américain. C'est là, en fait, toute la difficulté de comment est-ce que on arrive à articuler des ambitions très belles sur le papier de clause miroir, mais comment est-ce qu'elles sont traduites des faits dans la réalité? Ça, c'est bien plus compliqué, et je pense que serait bien naïf celui qui qui y croient comme argent comptant.
Restez avec nous, Manon Pisani, bien sûr. Moi, je voudrais me tourner vers vous là-dessus, Thierry Pouche, parce qu'on a beaucoup de messages, les voilà sur WhatsApp. On a même quelqu'un qui reste anonyme et qui est douanier lui-même et qui dit, moi, je peux vous assurer qu'il n'y aura jamais un douanier, évidemment, derrière chaque exportation bovine. Est-ce que vraiment, c'est ça qu'il faut donner comme message aux gens qui nous écoutent, toute forme de garde-fou pour empêcher l'arrivée sur notre territoire de viande qui serait soit mauvaise, soit trop de pesticides, etc. Tout ça, c'est on peut pas faire confiance.
Alors, il y a plusieurs choses là dans l'échange qu'il y a eu avec Madame Pisani. Il faut rappeler déjà qu'il y a un certain nombre de parlementaires européens qui ont déposé un recours auprès de la Cour de justice européenne pour vérifier, en quelque sorte, entre guillemets, la constitutionnalité de l'accord. Mmh. Est-ce que ça s'est négocié dans les termes juridiques qu'il fallait avec la Commission, etc. Ça va prendre un certain temps.
Ouais, j'allais dire 25 ans pour y penser, hein, mais bon, c'est pas
oui,
grave.
Oui, mais justement, dans ce cas-là, l'accord pourrait, un peu comme le cas du Canada, pourrait rentrer en application provisoire, du coup.
Ça, c'est le CETA, vous voulez dire?
Comme le CETA, okay. Hein, il est toujours en application provisoire.
Ouais. Mais depuis 8 ans.
Mais oui, depuis 2017, hein, il a été mis en application. Et en plus, le Sénat ne l'a pas ratifié. Alors évidemment, la procédure de ratification n'est pas la même avec le Mercosur, puisque la Commission européenne est assez vigilante là-dessus. Elle n'avait pas envie de consulter les parlements nationaux et régionaux. Ça, c'est un premier point.
Mais du coup, je voudrais revenir à ma question quand même. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas avoir confiance si l'Europe dit on ne fera pas venir sur le territoire du bœuf aux hormones, du bœuf piqué aux antibiotiques, à certains pesticides, nourris par certains pesticides, je peux pas avoir confiance.
Alors c'est compliqué parce que déjà pour effectuer les contrôles à la frontière, il faudrait que la Commission européenne et les États membres admettent qu'il va falloir regrossir les effectifs de douaniers. Déjà, parce que quand on regarde les effectifs de douaniers dans l'Union européenne avec le marché intérieur notamment, ils ont fondu depuis quand même pas mal d'années et en particulier en France. Donc déjà il y a un problème très, très matériel d'une certaine façon d'effectifs faire ça. Et ensuite, les contrôles vont se faire à l'arrivée ou vont se faire à l'expédition dans un des pays du Mercosur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et à ce moment-là, est-ce que les États membres du Mercosur vont accepter qu'il y ait des contrôles sur leur territoire? Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Je voudrais juste préciser aussi que les clauses miroirs, pour l'instant, elles ne sont pas appliquées parce qu'il y a un désaccord entre les 27. On parle bien de clauses de sauvegarde. C'est une option qui a été retenue par la Commission européenne. Et puis, la Commission européenne, il faut faire attention parce qu'elle se targue finalement lors de l'accord qu'il y a eu le 6 décembre 2024. Madame von der Leyen est partie signer ça. Il y a eu l'inclusion de la notion de durabilité et en particulier avec l'acceptation par les pays du Mercosur de l'accord de Paris de 2015. Alors il n'est pas contraignant évidemment, mais il y a au moins dans la perspective de la lutte contre la déforestation quelque chose qui a été retenu. Donc la Commission peut très bien rétorquer de ce point de vue-là qu'elle tient compte finalement des aspects environnementaux et des aspects écologiques.
Voici une question, c'est la vôtre, Patrick, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. On vous écoute, Patrick. Alors,
oui, eh ben, ma question est relativement simple. Ce traité qu'on essaye de faire depuis une trentaine d'années, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas une clause de revoyure, mais une vraie clause de revoyure, au bout de 3 ans, par exemple? Et là, on fait les bilans, on regarde un peu comment ça va, de manière que, effectivement, ça devienne gagnant-gagnant. Parce que là, on part dans l'inconnu, à mon avis.
Merci beaucoup pour votre question, Patrick. Manon Pisani, je vous poserai la question aussi à vous, Thierry Pouche, parce que je suis curieuse de savoir ce que, dans le CETA, notamment, ces fameux 8 ans, s'ils ont dit des choses, déjà. 3 ans et on voit, Manon Pisani, si, au pire, parce qu'on se remet dans la configuration qui est la nôtre aujourd'hui, pour l'instant, il y a beaucoup de chances que cet accord soit signé. Au pire, une clause de revoyure, est-ce que vous signez ça, Manon Pisani, ou pas, vous, chez les jeunes agriculteurs?
Non, très honnêtement, la clause de revoyure, moi, j'y crois pas. Enfin, je n'y crois pas vraiment. Pendant 3 ans, tout le monde essaiera de faire les choses correctement, et après le contrôle, on revient à des habitudes et à des pratiques qui sont coutumières chez. Dans les pays parties prenantes du Mercosur. Donc très honnêtement, la clause de revoyure à 3 ans, moi j'y crois pas trop, sachant que pendant 3 ans, les gens feront collectivement l'effort de faire les choses comme il faut pour la signature définitive, et puis ensuite advienne que pourra.
Après, Manon Pisani, on les voit bien, vos collègues en ce moment, effectivement, on voit les barrages, on voit aussi le contexte, effectivement, et l'un de nos auditeurs l'a rappelé, dans un contexte de dermatose nodulaire en plus, tout ça rend les choses très compliquées. Mais on a bien compris aussi que la France continuait à dire non. Donc, est-ce que vous en voulez toujours au gouvernement français, s'il y a signature, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on n'a pas poussé le bouchon assez loin? Est-ce que c'est contre l'Europe que vous êtes en colère? Est-ce que vous voulez quoi, le symbole de la non-signature de la France à minima à Bruxelles, à ce stade-là, au fond, contre qui est dirigée votre colère, Madame Pisani?
La non-signature du Mercosur à aujourd'hui par la France serait un signal fort envoyé à l'agriculture européenne et à l'agriculture française pour ce qui nous concerne. Enfin, nous, en tout cas, chez Jeunes Agriculteurs, on croit pleinement en l'avenir de l'ensemble de nos filières, persuadés qu'on est capable de produire à peu près la totalité de ce qu'on consomme sur nos différents territoires. Ce serait dommage d'importer une agriculture qui nous est incapable, enfin, dont on n'est pas capable de produire et dont à aujourd'hui personne ne veut dans son assiette. Aujourd'hui, nous sommes capables de produire de belles choses, de bonnes choses en France. Il faudrait capitaliser là-dessus, sans forcément aller chercher du bœuf bien plus loin, alors que on est tout à fait capable de le produire en France et à minima en Europe.
Deux questions, Thierry Pouche. D'abord, oui, est-ce qu'on est totalement... on pourrait vivre en autarcie agricole, si je puis dire,
Non. Alors, sur les grandes filières céréalières, laitières, bovins, même sur le porc, etc., on est largement autosuffisant ou vraiment tout juste à l'équilibre. Mmh. En revanche, pour un certain nombre, alors les fruits et légumes, ça fait très longtemps que nous sommes déficitaires, nous ne sommes pas autosuffisants. La viande ovine, on est à 50%. La viande de volaille, où on était autosuffisant, nous ne le sommes plus. Donc voilà, là, un bel exemple de bascule. On importe un peu plus de 50% de notre consommation intérieure. Mais sur le Mercosur, je voudrais te dire deux choses qui me paraissent fondamentales. À l'heure actuelle, sans que l'accord ne soit signé et encore moins appliqué, 58% des importations européennes de viande bovine proviennent déjà du Mercosur. C'est le premier fournisseur en viande bovine de l'Union européenne. La seule différence avec l'accord, c'est que ces importations, elles contiennent un droit de douane qui est en général en moyenne de 20%, voire même un peu plus. Donc là, avec l'accord, on va tomber à 7,5. Donc les exportateurs du Mercosur vont faire un bénéfice financier avec la diminution de cette rente. Et la deuxième chose, c'est que cet accord, il intervient vraiment au plus mauvais moment. Vous avez parlé de la dermatose, etc. Mais il y a un autre aspect qu'on signale assez peu et qui me paraît fondamental, c'est la baisse drastique des cheptels bovins en Europe et en particulier en France. Et la Commission européenne vient de publier un rapport où elle estime qu'à l'horizon 2035, on va encore perdre 3 millions de têtes sur le cheptel bovin. Ce qui veut dire que, inévitablement, si on continue à consommer de la viande bovine, on va être obligé d'importer. Et le calcul de la Commission, il est là. D'importer parce qu'on manque de disponibilité et on a du mal à régénérer les générations d'éleveurs bovins. Et en plus, on va pouvoir importer moins cher. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 40% sur le Mercosur de différence en moins par rapport à l'Union européenne. Et rien qu'avec le Brésil, c'est 60%.
Et puisque vous nous parlez d'éleveurs, Perrine nous a appelé. Bonsoir Perrine.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, moi j'ai une toute petite ferme en Haute-Garonne avec 8 vaches et je crée mes vaches et je transforme le lait à la ferme. Et je voudrais savoir comment ça se passe pour l'acheminement de la viande qui est en provenance d'Amérique du Sud jusque chez nous et notamment où est-ce que sont abattues les vaches?
Il y a beaucoup de questions dans ce sens-là. Qui peut répondre à ça? Manon Pisani, comment ça va se passer? Donc on a bien compris que l'abattage il se faisait au pays de départ. Et ensuite...
Bah, écoutez, je ne suis pas experte de la filière viande une fois qu'elle est abattue à l'étranger, mais j'imagine que ce sont des transports par bateau qui arrivent qui arrivent congelés sur le sol européen et qui sont ensuite redistribués sur l'ensemble du territoire. Mais je vous avouerai que je suis absolument pas experte, je n'en ai aucune idée, donc, et l'expertise ne devrait pas arriver de moi.
La question, pardon Manon Pazini, je voulais pas vous mettre en difficulté.
Qui a été accordé sur la viande bovine, mais il faudrait aussi parler des autres contingents en viande de volaille, en sucre, etc., qui vont certainement fragiliser ces filières. Mais sur le contingent en viande bovine, c'est de la viande congelée et de la viande fraîche, à peu près.
Je voudrais qu'on retourne à Bruxelles, mais je voudrais qu'on entende Claudine avant. Bonsoir Claudine.
C'est Dominique.
Dominique, pardon.
Oui.
Désolé.
Oui, bonjour. Je voulais dire qu'on avait oublié le volet du consommateur, en fin de compte, parce qu'on sait très bien, et l'un des intervenants l'a dit tout à l'heure, il y aura très peu de contrôle, on va contrôlé par sondage, et en fin de compte, ces viandes sont achetées par soit des chaînes de fast-food, soit des gens qui font de la restauration collective, et on va se retrouver avec des viandes aux antibiotiques ou avec des pesticides.
Après, moi, merci beaucoup pour votre question, Claudine. Dominique. non, parce que j'ai marqué Claudine sur l'affiche, excusez-moi. Moi, ce que j'ai envie de vous reposer la question, en fait, à tous les deux, Manon Pisani, peut-être pour commencer. Je suis assez scotché par le manque de confiance a priori, en fait. A priori, on va nous refiler de la viande qui sera piquée aux hormones, des veaux nourris par des OGM, etc., etc. Et on a l'impression que, a priori, c'est sûr et certain, tout le monde va tricher. Sur les quantités et les difficultés, je peux comprendre. Mais sur la mauvaise foi, est-ce que vraiment il faut acter le fait qu'on va forcément se faire avoir ? Qui peut répondre à ça ? Allez-y Manon, pardon.
Acter le fait que tout le monde va se faire avoir, je sais pas, mais il faut imaginer que ça ne fait plaisir à personne dans un pays où on est capable, et sur un continent sur lequel on est capable de produire d'une façon la plus durable, et ça a été démontré, et la plus vertueuse qui puisse exister sur l'ensemble de l'agriculture mondiale, ça ne plaît à personne d'imaginer qu'on puisse importer des produits issus de l'agriculture de l'autre bout de l'autre bout du monde, dans des conditions déloyales au possible, en concurrence directe avec des produits de bœuf en l'occurrence, parce que c'est ce qu'on parle le plus, mais aussi de betteraves français, issus de filières françaises. Ça ne plaît à personne. On est capable de produire tout ça en France, on le produit bien, et on est incapable de le valoriser. Malheureusement, nos produits sont à aujourd'hui très peu concurrentiel sur un marché qui est mondialisé, et ça c'est vrai pour l'ensemble des filières, mais sachant que on peut, personne n'est satisfait, et l'équation elle sera forcément pas bonne, et la défiance elle sera importante peu importe les conditions qui nous sont mises en face.
Et je comprends très bien ce qu'elle nous explique, Manon Pisani, Thierry Pouche, et le mot que je retiens, c'est défiance, en fait.
Oui.
C'est pas forcément une histoire de tricherie, effectivement, ou comme j'ai formulé tout à l'heure, c'est il y aura toujours une défiance, c'est ça que ça dit.
Il y a une défiance parce que les pratiques d'élevage sont tellement différentes et les coûts de production sont tellement avec un écart important que la défiance surgit quasi immédiatement. Mais au-delà de la viande bovine, j'ai parlé de la viande de volaille, du sucre, mais il faut ne pas oublier aussi, par exemple, la filière apicole. Il y a 45 000 tonnes de miel qui vont arriver du Mercosur à droit de douane nul. Qu'est-ce qu'on va expliquer aux producteurs de miel dans l'Union européenne, et en particulier les producteurs de miel en France? Voilà. Et vous avez tout un tas de filières comme ça qui vont être exposées. J'ajouterai juste un point aussi sur ces accords. Alors, il y a eu un auditeur qui n'aimait pas trop libre-échange. On peut parler de partenariat commercial, d'accords régulés, des échanges, etc.
On peut faire de la périphrase si on veut.
Sauf qu'à chaque fois, il y a une variable qui n'est jamais prise en compte, c'est le taux de change. Et on sait que le real brésilien, par exemple, la monnaie locale, est systématiquement sous-évalué par rapport à l'euro, ce qui procure un avantage compétitif par la voie de la parité monétaire aux exportateurs brésiliens. Et un dernier point, il ne faut pas oublier que le Brésil est doté d'immenses firmes multinationales, à commencer par JBS, qui est le grand spécialiste dans le monde de la viande bovine, justement, entre autres. Mais ça peut compter aussi de façon offensive pour le commerce extérieur brésilien.
C'est sûr que des fermes avec 8 vaches, comme notre auditrice tout à l'heure, au Brésil, je ne sais pas si ça existe même. Je voudrais qu'on refasse un aller-retour à Bruxelles, retrouver Fabien Cazot, parce que quand même, Fabien, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une possibilité même pour que la France dise « moi je signe pas » On sait bien que, de toute façon, il n'y a pas la minorité de blocage. Mais est-ce que c'est dans les papiers, les tuyaux, ça ou pas?
Alors oui, il y a une possibilité, surtout si on se réfère à ce qu'est venu dire Emmanuel Macron le mois dernier à Bruxelles. Vous vous souvenez, il y avait un conseil européen avec tous les chefs d'État et de gouvernement, et il avait même invoqué une forme de bon sens paysan qui s'était lui-même approprié en disant « je veux la vérité des prix ». Voilà, la Commission européenne promet des contrôles, on en parle depuis tout à l'heure, elle les promet pour janvier, moi j'attends de voir, et en l'état actuel des choses, il n'est pas question de signer l'accord avec le Mercosur. Ça, c'était mi-décembre, janvier commence à peine, les contrôles ne sont pas ou ne vont pas être tout de suite en place, donc de ce point de vue-là, on ne voit pas comment, sur la base de ce seul argument-là, la position française pourrait bouger. Donc effectivement, l'option d'une non-signature reste sur la table. Après, la partition française est quand même compliquée, la France est un pays fondateur de l'Union européenne, est-ce qu'elle peut s'opposer à quasiment tous les autres? Il y a aussi
ça s'est jamais produit, non? Je veux pas vous piéger là-dessus, Fabien Cazot, je ne suis pas sûr que ça se soit déjà produit, en fait, un non sur un texte aussi important, sur un traité.
En fait, sur des textes importants, sur des mesures importantes, à certains moments, chaque partenaire européen prend un peu sa paume, j'allais dire, mange un peu son chapeau. Et les Allemands l'ont fait, par exemple, quand l'Union européenne a décrété des droits de douane sur les voitures électriques importées de Chine, ou plus récemment sur l'emprunt à l'Ukraine, le prêt à l'Ukraine gagé sur des avoirs russes, qui n'a finalement pas été retenu. Là, c'est peut-être au tour de la France, du point de vue de la Commission européenne, de prendre un peu son revers avec cet accord Mercosur. Il y a un enjeu d'unité européenne et puis aussi de diversification des partenariats commerciaux. Ça, on en entend beaucoup parler à Bruxelles aussi.
Alors, il y a l'un de nos auditeurs, Fabien, y a fait allusion. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a tout ça qui se tend. Donc, on a besoin aussi de nos filières de notre côté. C'est un argument qui tient, ça, ou pas?
L'argument de la Commission, c'est que l'accélération des tensions internationales, notamment sur le plan commercial, Chine, États-Unis, doit accélérer la signature.
Et ça, on l'a dit dès le début, on s'est dit, aïe, 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 le Mercosur, dès lors que les droits de douane sont arrivés. Mais c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on balaye cet argument d'un trait de plume? On se dit, oui, c'est vrai, on le met quand même dans la case des plus, qu'on le veuille ou non.
Ah ben, c'est l'argument de la Commission. Après, si on revient au cas agricole, justement, on peut se poser plein de questions. Là, on accélère parce que il y a des marchés, notamment celui des États-Unis, qui se ferment avec les droits de douane. Donc, la Commission cherche une porte de sortie qui était déjà là de toute façon, mais qui s'accélère en raison de la tension internationale. Je voudrais juste ajouter un point sur les 45 milliards de la Commission pour la politique agricole commune qui ont été accordés...
Et qui font plier l'Italie, donc.
Voilà, qui font plier l'Italie. Il faut faire attention, parce que c'est à double tranchant. Le budget de la PAC, il va être négocié. Et entre les États membres...
Oui, c'est le budget 28-34, on est d'accord.
C'est ça, le budget 28-34. Il va être négocié avec le Parlement, avec le Conseil et avec la Commission. Et donc, l'Italie, elle a obtenu quelque chose, mais il faut voir que la négociation peut faire évoluer aussi le dossier dans les années à venir.
J'ai une dernière question pour vous, Fabien Cazot. Je vous remercie tous vraiment beaucoup. On n'a pas trop de temps, mais je voudrais quand même... Est-ce que dans les couloirs de Bruxelles, on dit aussi, attendez, il y a un autre facteur, et c'est pour ça que ce n'est pas le moment que la France n'assigne pas, quoi qu'elle en pense. C'est Trump, c'est le Venezuela, c'est tout ce qui se passe là. C'est la coalition des volontaires. Enfin, on a besoin de montrer une Europe unie. Et donc, pardon de le dire comme ça, tant pis pour le Mercosur, amis français. Est-ce que c'est ça aussi le message qu'on nous envoie?
Il y a un enjeu, hein, même si la Commission européenne fait très attention à ne pas brouiller les messages, et à ne pas mélanger tous les sujets les uns avec les autres. Mais il y a quand même cette idée, effectivement, d'afficher une unité des Européens d'autant plus importante au moment où, que ce soit depuis les États-Unis, depuis la Chine, depuis la Russie et même à l'intérieur de l'Union européenne, des forces politiques, justement, ont plutôt tendance à attiser les divisions entre Européens.
Merci beaucoup. Merci vraiment à tous les trois, en particulier à vous, Manon Pisani, parce que vous êtes arrivé au pied levé chez nous. Merci vraiment de l'avoir fait. Merci à tous pour vos nombreuses questions.